La terre paternelle, suite. Chapitre 7. 10 ans après. L'hiver venait de se déclarer avec une grande rigueur. La neige couvrait la terre. Le froid était vif et piquant. Le ciel était chargé de nuages gris que le vent chassait avec peine et lenteur devant lui. Le fleuve, après avoir promené pendant plusieurs jours ses eaux sombres et fumantes, s'était peu à peu ralenti dans son cours, et enfin était devenu immobile et glacé, présentant une partie de sa surface unie et l'autre toute hérissée de glaçons verdâtres. Déjà l'on travaillait activement à tracer les routes qui s'établissent d'ordinaire, chaque année, de la ville à Longueuil, à Saint-Lambert et à la Prairie. Partie de ces chemins était déjà garnie de balises, plantées régulièrement de chaque côté, comme des jalons, pour guider le voyageur dans sa route, et présentait agréablement à l'œil une longue avenue de verdure. Deux hommes, dont l'un paraissait de beaucoup plus âgé que l'autre, conduisaient un traîneau chargé d'une tonne d'eau qu'ils venaient de puiser au fleuve, et qu'ils allaient revendre de porte en porte dans les parties les plus reculées des faubourgs. Tous deux étaient vêtus de la même manière, un gilet et pantalon d'étoffe du pays, sales et usées, des chaussures de peau de bœuf, dont les hausses enveloppant le bas des pantalons, étaient serrées par une corde autour des jambes, pour les garantir du froid et de la neige. Leur tête était couverte d'un bolet de laine bleue du pays. Les vapeurs qui s'exhalaient par leur respiration s'étaient congelées sur leur barbe, leurs favoris et leurs cheveux, qui étaient couverts de frimas et de petits glaçons. La voiture était tirée par un cheval, dont les flancs amaigris attestaient à la fois et la cherté du fourrage et l'indigence du propriétaire. La tonne, au devant de laquelle pendaient deux seaux de bois cerclés en fer, était, ainsi que leurs vêtements, enduite d'une épaisse couche de glace. Ces deux hommes finissaient le travail de la journée. Exténués de fatigue et transis de froid, ils reprenaient le chemin de leur demeure, situé dans un quartier pauvre et isolé du faubourg Saint-Laurent. Arrivé devant une maison basse et de chétive apparence, le plus vieux se hâta d'y entrer, laissant au plus jeune le soin du cheval et du traîneau. Tout dans ce réduit annonçait la plus profonde misère. Dans un angle, une paillasse avec une couverture toute rapiécée. Plus loin, un grossier grabat, quelques chaises dépaillées, une petite table boiteuse, un vieux coffre, quelques ustensiles de fer blanc suspendus au trumeau, formaient tout l'ameublement. La porte et les fenêtres mal jointes permettaient au vent et à la neige de s'y engouffrer. Un petit poêle de tôle, dans lequel achevaient de brûler quelques tisons, réchauffait à peine la seule pièce dont se composait cette habitation, qui n'avait pas même le luxe d'une cheminée. Le tuyau du poêle perçait le plancher et le toit en faisait les fonctions. Près du poêle, une femme était agenouillée. La misère et les chagrins l'avaient plus vieillie encore que les années. Deux sillons profondément gravés sur ses joues annonçaient qu'elle avait fait un long apprentissage des larmes. Près d'elle, une autre femme, que ses traits, quoique pâles et souffrants, faisaient aisément reconnaître pour sa fille, s'occupait à préparer quelques misérables restes pour son père et son frère qui venaient d'arriver. Nos lecteurs nous auront sans doute déjà devancés, et leur cœur se sera serré de douleur en reconnaissant dans cette pauvre famille la famille autrefois si heureuse de Chauvin. Chauvin, après s'être vu complètement ruiné et ne sachant plus que faire, avait enfin pris le parti de venir se réfugier à la ville. Il avait en cela imité l'exemple d'autres cultivateurs, qui, chassés de leurs terres par les mauvaises récoltes et attirés à la ville par l'espoir de gagner leur vie en s'employant aux nombreux travaux qui s'y font depuis quelques années, sont venus s'y abattre en grand nombre et ont presque doublé la population de nos faubourgs. Chauvin, comme l'on sait, n'avait point de métier qu'il pût exercer avec avantage à la ville, n'étant que simple cultivateur. Aussi, ne trouvant pas d'emploi, il se vit réduit à la condition de charroyeur d'eau, un des métiers les plus humbles que l'homme puisse exercer sans rougir. Cet emploi, quoique très peu lucratif et qu'il exerçait depuis près de 10 ans, avait cependant empêché cette famille d'éprouver les horreurs de la faim. Au milieu de cette misère, la mère et la fille avaient trouvé le moyen, par une rigide économie et quelques ouvrages à l'aiguille, de faire quelques petites épargnes. Mais un nouveau malheur était venu les forcer à s'en dépouiller. Le cheval de Chauvin se rompit une jambe. Il fallut de toute nécessité en acheter un autre, qui ne valait guère mieux que le premier, et avec lequel Chauvin continua son travail. Mais ce malheur imprévu avait porté le découragement dans cette famille. Quelques petits objets que la mère et Marguerite avaient toujours conservés religieusement comme souvenirs de famille et d'enfance furent vendus pour subvenir aux plus pressants besoins. L'hiver sévissait avec rigueur. Le bois, la nourriture étaient chers. Alors, des voisins compatissants, dans l'impossibilité de les secourir plus longtemps, leur conseillèrent d'aller se faire inscrire au bureau des pauvres pour en obtenir quelques secours. Il en coûtait à l'amour-propre et au cœur de la mère d'aller faire l'aveu public de son indigence. Mais la faim était là, impérieuse. Refoulant donc dans son cœur la honte que lui causait cette démarche, elle emprunte quelques hardes à sa fille et se dirige vers le bureau. Elle y entra en tremblant. Elle y reçut quelques modiques secours. Mais, sur les observations qu'on lui fit, que le bureau avait été établi principalement pour les pauvres de la ville, et qu'étant de la campagne, elle aurait dû y rester et ne pas venir en augmenter le nombre, la pauvre femme fut tellement déconcertée du ton dont ses observations lui furent faites qu'elle sortit, oubliant d'emporter ce qu'on lui avait donné, et reprit le chemin de sa demeure en fondant en larmes. Chapitre 8. Le charnier. Après 10 ans de pareille souffrance, le malheur de la famille Chauvin ne pouvait, ce semble, aller plus loin. Cependant, il lui fallait encore passer par d'autres épreuves bien douloureuses et boire la coupe jusqu'à la lie. Le fils aîné fut attaqué d'une maladie mortelle. La misère, les privations de tout genre, le travail excessif, avaient achevé de ruiner sa santé depuis longtemps chancelante. Tous les secours de l'art ne purent le rappeler à la vie. Il mourut entre les bras de sa famille, qui se vit privée tout à coup d'un de ses soutiens. Ce fut au pauvre père affligé que fut dévolue la pénible tâche de s'occuper de l'enterrement. La demeure du Bedeau lui fut indiquée et il s'y rendit. Ce pourvoyeur de la mort n'était pas alors chez lui. En effet, Chauvin le rencontra, peu d'instants après, sortant de l'église tout essoufflé. Il venait d'aider à sonner, en grand carillon, l'éclat d'un riche qui, par un contraste insultant pour la misère de Chauvin, s'était laissé mourir d'un excès d'embonpoint. Parmi toutes les bonnes qualités qui brillaient en notre Bedeau, aucune n'égalait la sensibilité de son cœur. C'était surtout lorsque quelques parents affligés venaient, les larmes aux yeux, lui annoncer la mort de quelqu'un des leurs, que cette qualité se montrait dans tout son état. Alors, on le voyait présenter à son interlocuteur une moitié du visage où se peignait la tristesse la plus profonde, tandis qu'un spectateur placé du côté opposé eût pu voir l'autre joue épanouie et son œil pétiller de joie en pensant aux nombreux items du tarif. L'amour du prochain était pratiqué à un haut degré par notre Bedeau. Quelques malins disaient pourtant qu'il l'aimait peut-être un peu plus après sa mort que pendant sa vie, par la raison que, lorsque le défunt, après avoir dit un éternel adieu aux choses d'ici-bas, avait déjà réglé ses comptes dans l'autre monde, il lui restait encore à régler en dernier ressort avec notre Bedeau. Hâtons-nous cependant d'ajouter, en toute justice, que s'il lui arrivait rarement de rabattre sur le tarif, il ne lui arrivait jamais non plus de le surcharger. Lors donc que Chauvin lui eut exposé le sujet de sa visite, notre Bedeau, tout en s'apitoyant sur son malheur, promenait sur lui un regard inquisiteur pour tâcher de découvrir à quelle classe appartenait le défunt. « Quand sonnerez-vous le glas de mon fils ?» demanda le père. « Mais tout de suite, si vous voulez. Combien de cloches ?» Puis, avec la volubilité d'un homme qui sait son tarif par cœur, « Une cloche, c'est 10 piastres. 2 cloches, c'est 20 piastres. 3 cloches, c'est 30 piastres. 4 cloches, c'est... » « Ah, mon cher monsieur !» interrompit Chauvin. « Je suis pauvre. Je ne pourrai jamais vous payer des sommes comme cela. » « Quoi ? Pas seulement pour une cloche ? Mais il faut au moins payer pour une cloche, si vous voulez avoir un service. Autrement, vous n'en aurez pas, et on portera votre fils au cimetière tout droit. »« Serait-il possible, monsieur ? Quoi ? Mon pauvre enfant n'entrerait donc pas à l'église ? » ?»« Mais non, vous dis-je, bonhomme, à moins que vous ne fassiez chanter un service, au moins d'une cloche. » Comme ce gros monsieur qui vient de mourir. Il sera porté à l'église, lui, parce qu'il paie pour un service. Allez !» Mais, monsieur, se permit de remarquer le père Chauvin, on dit que ce monsieur n'est jamais venu à l'église pendant sa vie, et cependant il va y entrer avec pompe après sa mort. Mon fils, au contraire, y est venu souvent prier. Il n'aura donc pas le bonheur d'y être porté après sa mort pour avoir une pauvre petite prière et un peu d'eau bénite sur son corps. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est la règle. Tout ce que je puis faire pour vous, c'est de fournir un cercueil. Vous porterez le corps au cimetière et il y sera enterré jeudi prochain. » Le père Chauvin prit alors congé du bedeau, qui fut ponctuel à lui envoyer le cercueil le jour indiqué. Le mort, enseveli d'un linceul qu'un des voisins fournit par charité, y fut déposé au milieu des larmes et des sanglots. Chauvin plaça le cercueil sur son traîneau, qu'un autre de ses voisins s'offrit généreusement de conduire, puis il prit place derrière, accompagné du vieux chien Morfort, et le convoi du pauvre s'achemina, lentement, vers le cimetière du faubourg Saint-Antoine. Dès que le gardien de ce vaste dortoir vit arriver le convoi, il vint au-devant, et, aidé du conducteur de la voiture, il déposa le corps dans la chapelle, en attendant le prêtre, qui venait régulièrement 2 fois la semaine présider à l'enterrement des pauvres. Celui-ci parut bientôt, et après les prières usitées, le corps fut emporté à bras par le gardien et un de ses aides. Après avoir fait quelques pas, les porteurs s'arrêtèrent près d'une frêle construction en bois d'environ 20 pieds carrés qui reposait sur la terre nue, et le gardien, tirant une clé de sa poche, se mit en devoir d'en ouvrir la porte. « Mais où est-ce donc que vous allez mettre mon fils ?» demanda Chauvin d'un air inquiet. « Je ne vois pas de fosse creusée pour... »« Mais ici, » répondit le gardien. « Dans la charnière, c'est là que l'on met les pauvres pendant l'hiver. La terre est gelée, et ça coûterait trop cher pour faire les fosses. Oh, »« Monsieur, je vous en prie, ne le mettez pas là. Ma pauvre femme en mourrait de douleur si elle le savait. Mon fils n'y restera pas la nuit. Il va être volé par l'éclair docteur. »« Ah, pour cela, ne craignez rien, bonhomme. J'ai là mon fusil et un bon chien. Je les défie d'y venir. » « Tenez, monsieur, prêtez-moi une bêche. La terre ne vous manque pas ici. Je vais creuser moi-même la fosse de mon fils dans quelque petit coin. »« C'est impossible, bonhomme. C'est contre mes ordres. Oh, »« Je vous en prie, ne me refusez pas cette grâce. Je gratterai plutôt la terre avec mes mains. Mais pour l'amour de Dieu, ne mettez pas mon fils dans la charnière. » Cette horreur des pauvres pour le charnier n'est point exagérée. Il y a eu un temps où des gardiens infidèles se laissaient corrompre par l'appât de l'or et faisaient du charnier un réservoir où l'éclair docteur venait, à prix fixe, choisir les sujets de dissection qui leur convenaient. Il s'y faisait un trafic régulier de chair humaine, et Dieu seul connaît le nombre de ceux qui sont passés de ce lieu de repos sous le scalpel du médecin. Mais on doit dire ici, à la louange du gardien actuel, qu'il s'acquitte de sa charge avec une fidélité à toute épreuve. Et personne ne sait mieux que l'éclair médecin qu'il est incorruptible sur ce chapitre. Aussi envie ne leur prend d'essayer la juste portée de son fusil, ni de faire une connaissance trop intime avec la mâchoire du fidèle sultan. Aussi ce fut aux assurances réitérées que le gardien fit à Chauvin que le corps de son fils serait dans le charnier aussi en sûreté qu'au sein de la terre, qu'il consentit, comme malgré lui, à l'y laisser déposer. Ce pauvre père, le cœur navré, plongea plusieurs fois ses regards au fond de ce trou, où gisaient, rangés par ordre, un grand nombre de cercueils de toute grandeur. Et lorsque le corps de son fils y fut descendu, il lui jeta pour dernier adieu quelques poignées de terre, et la porte du charnier se referma. Chapitre 9. Les prières d'une mère. Les jours qui suivirent l'enterrement n'eurent rien de remarquable dans la famille Chauvin. Toujours la monotonie affreuse de la misère. Le père continuait seul maintenant son travail. La mère et la fille essayaient de reprendre courage avec leurs occupations ordinaires. Tous les anciens amis de Chauvin l'avaient abandonné depuis longtemps. Comme à l'ordinaire, il en comptait beaucoup au temps de la prospérité. Les jours mauvais étaient venus, et tous avaient pris la fuite. Un seul ne l'avait point abandonné et le visitait souvent. Il le secourait même autant que ses faibles moyens le lui permettaient. Sa bonhomie, sa franchise et son cœur généreux l'avaient rendu l'ami intime de cette famille. C'était le vieux Dany, ancien voyageur, âgé de près de 70 ans, haut de taille, à traits fortement prononcés. Il avait fait 40 campagnes dans les pays hauts sous les anciens bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest. Retiré du service depuis longtemps, il n'avait recueilli de ses voyages qu'une modique rente qui lui suffisait à peine, et la réputation bien méritée, parmi tous les voyageurs, d'avoir été d'une force extraordinaire, marcheur infatigable et grand mangeur. Il avait appris de Chauvin que le cadet de ses fils s'était autrefois engagé pour les pays sauvages, et sans l'avoir jamais connu, il s'était pris d'affection pour ce jeune homme, seulement parce qu'il courait les mêmes aventures que lui, et il l'appelait familièrement son fils. Il entrait chez Chauvin à toute heure de la journée, et à chaque visite, il ne manquait jamais de demander si on avait reçu des nouvelles du voyageur. C'était alors pour lui le prétexte tout naturel d'entrer en matière et de raconter au long les prouesses de son jeune temps et mille et mille épisodes de ses voyages, toutes plus véridiques les unes que les autres. Un soir, il vint faire sa visite accoutumée. La mère et la fille étaient seules. Il s'assit près d'elles et leur demanda comment elles se portaient. « Tout doucement !» répondit la mère d'une voix encore émue par des larmes récentes. « Toujours des larmes, la mère, toujours des larmes !»« Eh, mon bon monsieur Dany, il y a longtemps que les larmes et moi avons fait connaissance. Elles ont commencé à couler au départ de mon fils Charles. Celles que je verse sont pour le seul fils qui me restait. Elles sont bien amères. »« Comment, du seul fils qui vous restait ? Diable, la mère, comme vous y allez ! Est-ce que vous croyez donc tout de bon que votre fils Charles est mort aussi? Allons donc, est-ce qu'on meurt toujours là-bas? Et moi qui vous parle, j'ai bien été 20 ans d'un coup sans revenir, si bien que ma vieille Marianne, qui me croyait mort, voulait me faire chanter un libera. Heureusement que je suis arrivée à temps. Eh bien, après tout, vous voyez bien que je ne suis pas mort. Oui, mais mon pauvre fils, dont nous n'avons pas eu de nouvelles depuis si longtemps... Qui oserait espérer qu'il vive encore? On a interrogé tous les voyageurs qui sont descendus. Personne n'en a entendu parler. Et il n'y a plus aucun doute qu'il n'ait péri de faim et de froid dans l'expédition qui était allée à la recherche du capitaine Ross. Il en faisait partie, comme vous savez. Ah, si quelque chose pouvait me faire espérer de revoir un jour ce cher fils, ce serait de penser que le bon Dieu a eu pitié de moi. Et qu'il aura exaucé mes prières, car lui seul connaît combien je l'ai prié souvent et bien longtemps pour... » Les sanglots l'empêchèrent de continuer. « Allons, allons, la mère, consolez-vous. Tenez, je ne suis pas prophète, mais je vous l'ai dit souvent, Et je vous le répète encore, que Dieu est bon, qu'il se laissera toucher par vos prières, et qu'il vous rendra tôt ou tard votre fils. Chapitre 10. Un voyageur. Nous allons laisser le père d'Annie achever paisiblement la veillée près de la mère Chauvin et lui prodiguer des consolations. Et, avec la permission de nos lecteurs, nous leur ferons faire un agréable petit voyage à la pointe aux Anglais, à quelques milles au-dessus du village du lac des Deux Montagnes, et nous les ramènerons dans les deux canots qui viennent de paraître à l'horizon. Partis du poste du Grand Portage, sur le lac supérieur, depuis près d'un mois, ils avaient traversé une longue suite de lacs, de forêts et de rivières, sans presque rencontrer d'autres traces de civilisation que quelques croix de bois plantées sur la côte vis-à-vis des rapides et qui y avaient été placées par d'anciens voyageurs pour léguer à leurs futurs compagnons de voyage l'histoire affligeante de quelques naufrages arrivés en ces endroits. Ils touchaient enfin au terme de leur course, pendant laquelle ils n'avaient éprouvé que des vents contraires. C'était par une belle matinée du mois de juillet. La nuit avait été calme et sereine, et les eaux du lac conservaient encore le matin leur immobilité de la nuit. Les voyageurs avaient campé en bas du long saut et s'étaient remis en route à la pointe du jour. Harassés par de longues fatigues, leurs corps se ployaient avec peine au mouvement de l'aviron. Les deux canots, à grandes pinces recourbées et fraîchement peints de couleurs brillantes, glissaient lentement sur la surface des eaux. Sous le large prélat qui recouvrait les paquets de fourrure dont les canots étaient chargés, deux commis des comptoirs de la compagnie achevaient paisiblement leur sommeil, souvent interrompu de la nuit. Tout à coup, un cri de joie se fait entendre. Cri semblable à celui que poussent les marins en mer, quand, après une traversée longue et périlleuse, la vigie a crié « Terre ! Terre !» Il venait d'apercevoir le clocher de l'église de la mission du lac, qui resplendissait alors des feux du soleil levant. Cette vue rappelait en eux de bien doux souvenirs. Chacun croyait voir le clocher de son village. Encore un pas, et ils allaient revoir le lieu de leur enfance, embrasser leur vieux père, sauter au cou de leur vieille mère, qui ne les attendent pas. Ce cri, poussé d'abord par un des guides, avait été répété en chœur par tout l'équipage. « Hardi, mes enfants !» cria le vieux. « Au gouvernail, nous voilà arrivés !» Et pour exciter le courage et donner de l'activité aux avirons, il chanta d'un air animé « Voilà la saison, il est temps d'arriver !» etc., etc. Les refrains, chantés en chœur, étaient répétés au loin par l'écho du rivage. En peu de temps, les canots touchaient la terre vis-à-vis l'église du village, au milieu d'une grande foule accourue au-devant d'eux. Après quelques instants de relâche en cet endroit, on se remit en route. Le vent s'était élevé. Ceux à la garde desquels les canots étaient confiés, craignant que les pelleteries ne fussent endommagées par l'eau, au lieu de couper en plein lac, dirigèrent les embarcations par le petit détroit, et bientôt on arriva au rapide Sainte-Anne. Là, suivant l'antique et pieux usage, tous les voyageurs se rendirent à la petite chapelle blanche élevée sur les bords du rapide, sous l'invocation de Sainte-Anne. Ils venaient remercier leur patronne de les avoir préservés des dangers inséparables d'un si long voyage. En partant, ces mêmes hommes étaient venus s'y mettre sous sa protection. Il était juste qu'ils vinssent s'y agenouiller au retour. Enfin, quelques heures après, les canots touchaient au port désiré depuis longtemps. Ils étaient à la Chine, rendez-vous général de toutes les embarcations qui partent pour les pays hauts ou qui en reviennent. Tous nos voyageurs, joyeux de se retrouver sains et saufs au même endroit qu'ils avaient quitté depuis longtemps, se félicitèrent mutuellement et s'empressèrent d'accepter l'offre que leur fit l'agent de la compagnie de se reposer de leur fatigue avant de se rendre au sein de leur famille. Un seul d'entre eux ne se rendit point à cette invitation, et chargeant son paquet de hardes sur ses épaules, il se mit aussitôt en route, après avoir dit adieu à ses compagnons de voyage. C'était un homme dans la fleur de l'âge, à la taille élancée et de bonne mine. Son teint était brûlé par les ardeurs du soleil. Ses cheveux longs et crépus, qui n'avaient pas connu les ciseaux depuis longtemps, flottaient sur ses épaules. Il portait des pantalons de grosse toile du pays, que retenait une large ceinture de laine diversement coloriée, et dont les franges touffues retombaient sur ses genoux. Ses pieds étaient chaussés de souliers de peau d'élan, artistement brodés en poils de porc épic de diverses couleurs, et ornés de petits cylindres de métal, d'où s'échappaient des touffes de poils de chevreuil teints en rouge. Sa chemise de coton blanc, à raies bleues, était entr'ouverte et laissait voir sa poitrine, tatouée de dessins fantastiques. Un cordon, dont on ne reconnaissait plus la couleur primitive, pendait à son cou et laissait deviner une médaille. Cet homme marchait à grands pas, interrogeant du regard toutes les routes, comme pour s'assurer de la plus courte qu'il avait à suivre pour se rendre au Gros Sceau où demeurait sa famille. Enfin, il est en vue de la maison paternelle. Son cœur bat violemment. Il se met à courir, et en quelques instants, il a franchi le seuil de la porte, qu'il ouvre brusquement et se précipite dans la maison. Mais il est déconcerté en se trouvant face à face avec un étranger qu'il ne connaît pas. Celui-ci, surpris de cette brusque apparition, toise son visiteur de la tête aux pieds et lui dit « What business brings you here ?»« Oh, monsieur, pardon, je ne parle pas bien l'anglais, mais dites-moi, non, je ne me trompe pas, c'est bien ici. Où est mon père? Où est ma mère ?»«
What do you say ? Moi, pas connaître ce que vous dire. »«
Comment ? Vous ne connaissez pas mon père ? Chauvin, cette terre lui appartient. Où est-il ? » ?»«
Non, non, moi, non connaître votre père. Moi, avoir acheté la ferme de la shérif. »
Non, ce n'est pas possible. C'est mon père qui vous l'a vendu. Où demeure-t-il ? »
Non, non, godame, vous pas d'affaire ici. Moi n'avoir une bonne dite de la shérif. »
Chauvin, plus déconcerté que jamais, sort précipitamment de la maison et court chez le plus proche voisin. C'était des gens nouvellement arrivés dans l'endroit. Il ne connaissait pas sa famille. Il n'eut pas plus de succès aux portes voisines. En moins de 15 ans, le temps avait promené sa faux dans cet endroit. Le souvenir de l'ancien curé lui revint à l'esprit. Cet ancien ami de la famille avait aussi disparu. Le nouveau curé qui l'avait remplacé dit à Chauvin qu'il ne connaissait pas sa famille, mais qu'il avait entendu dire à ses anciens paroissiens qu'une personne de ce nom avait autrefois habité la paroisse. Mais les mauvaises affaires l'avaient forcé de se réfugier avec sa famille à la ville où il croyait qu'elle habitait encore. Ce peu de paroles dévoilèrent l'affreuse vérité à Charles. Il comprit tout. Son père était ruiné, sa terre était vendue, et l'étranger insolemment assis au foyer paternel. Il n'en entendit pas davantage. Il tourna immédiatement ses pas du côté de la ville, où il arriva la nuit déjà close. Il erre quelque temps, sans savoir de quel côté diriger ses pas. Tout à coup, il se rappelle l'auberge, où plusieurs années auparavant s'était décidée sa vocation. Il y entre, se fait connaître, et demande des renseignements sur son père. Celui-ci y était connu pour venir s'échauffer pendant la rude saison. On lui indique à peu près le quartier où il logeait. Charles reprend sa course et se décide enfin à frapper à la porte la plus voisine. C'était chez le père d'Annie. « Ouvrez !» répondit une voix forte.
« Ah !» s'écria le père d'Annie en apercevant Charles. « En v'là-t-il un mangeux de lard ? Regarde donc, Marianne, voilà comme j'étais dans mon jeune temps. Vois donc ces grands cheveux, cette ceinture, ces souliers sauvages et cette blague à tabac. Assieds-toi, mon garçon, et dis-moi, quand es-tu arrivé ?»«
Cet après-midi, monsieur. »«
Ah, tu es un des voyageurs arrivés par les canaux qu'on attendait ces jours-ci ? » ?»«
Oui, monsieur. » »«
Et tu viens te promener à la ville ?»
« Non, monsieur, je suis à la recherche de ma famille, que l'on m'a dit demeurer près d'ici. »«
Et comment t'appelles-tu, mon garçon ?»«
Charles Chauvin, monsieur, je... »«
Dieu du ciel !» s'écria le père d'Annie en se levant brusquement de son siège, se redressant de toute sa haute taille et en regardant Charles d'un air stupéfait.
« Eh bien, Marianne, ne te l'ai-je pas dit souvent que Dieu était bon et qu'il rendrait enfin ce pauvre enfant à sa mère ?»«
Oui, mon garçon, tu arrives bien à temps, va. Tes parents sont depuis longtemps dans la plus grande misère. Ton père a fait de mauvaises affaires, sa terre a été vendue, il a été ruiné. Et il gagne misérablement sa vie ici à charroyer de l'eau. Pour comble de malheur, ton pauvre frère vient de mourir. Et comme il te croit mort aussi, tu peux juger de l'état où ils sont. Dis-moi, mon garçon, as-tu ménagé tes gages? Apportes-tu de l'argent avec toi?
Oui, monsieur. Mes gages me sont presque tous dus par la compagnie et je les retirerai quand je voudrai.
Ah, oh, c'est bien, mon garçon. Tu es un bon fils. Viens ici que je t'embrasse. »
Et le père d'Annie serra Charles contre son cœur.
« Allons, mon garçon, tu es bien fatigué. Repose-toi un peu et prends quelque chose. »«
Merci, monsieur. J'ai hâte de revoir mon père. » »«
Eh bien, mon garçon, je m'en vas t'y mener. Mais va doucement, parce que ça va leur faire un coup, surtout à la pauvre mère. Mais laisse-moi faire. » J'entrerai le premier et j'arrangerai la chose. Allons, Marianne, donne-moi mes béquilles. »
Et tous deux sortirent.
Ah, ça, mon garçon, ne va pas trop vite, je ne pourrai te suivre. Il y a eu un temps où je t'aurais battu le chemin, mais à présent, je n'ai plus de jambes.
En parlant ainsi, ils arrivaient à la demeure de Chauvin. Le père d'Annie ouvrit sans frapper et, entrant le premier,
« Tenez, mère Chauvin, je vous avais bien dit que tôt ou tard vous auriez des nouvelles de votre fils. Voici un voyageur qui arrive et qui va vous en donner. »
Charles promena ses regards sur un homme déjà âgé et sur deux femmes dont la misère et la souffrance avaient tellement altéré les traits qu'il ne les reconnut point. Charles, qui les avait quittés à peine sortis de l'adolescence et qui revenait homme fait, n'en put être reconnu à son tour.
« Ah, monsieur !» dit la mère en s'adressant à Charles. « M'apportez-vous des nouvelles de mon cher fils ?»
À ce son de voix bien connu, Charles avait reconnu sa mère. Il voulait répondre. Son cœur se gonfla, sa langue resta muette, il demeura immobile. La mère, interprétant ce silence en mauvais augure,
« Ah, père d'Annie !» dit-elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas épargné la douleur d'apprendre moi-même de ce voyageur que mon pauvre Charles est mort ?»«
Mort ?» s'écria le père d'Annie.
« Une preuve qu'il ne l'est pas, c'est que vous l'avez devant vous !»«
Ma mère, maman !»
cria Charles en se jetant dans les bras de sa mère.
« Pauvre enfant !» disait la mère d'une voix éteinte. « Je ne te reconnais pas. Je crois pourtant que tu es mon fils. » Le bon Dieu a enfin exaucé mes prières. »
Pendant ces tendres embrassements, la médaille sortit de la poitrine de Charles et effleura la main de sa mère.
« Ah ! » s'écria-t-elle, « ma médaille ! Ah oui, c'est mon fils ! C'est mon Charles !»
À peine Charles se relevait des étreintes maternelles, qu'il fut saisi à son tour par son père et Marguerite, qui l'attiraient à eux en le couvrant de baisers.
« Eh mon Dieu !» s'écriait le père d'Annie. « Laissez-le donc un peu respirer, ce pauvre enfant !»
Bientôt, Marguerite, s'échappant des bras de son frère et ne se possédant plus de joie, sauta au cou du père d'Annie.
« Ah, bon monsieur, c'est vous qui nous rendez mon frère, ce pauvre Charles !»«
Eh non, non, ma fille ! Eh mon Dieu, laissez-moi donc, vous allez me jeter à terre, vous m'étouffez !» « Allons, je crois qu'elle veut me faire pleurer aussi. »
Pendant ces scènes attendrissantes, le vieux chien Morfort, qui avait grondé sourdement en voyant cet étranger, avait bien vite flairé son ancien maître. Le pauvre animal avait pardonné depuis longtemps à Charles la blessure qu'il lui avait faite en partant et qu'il avait rendue boiteux, et il s'était attaché à sa jambe en poussant des hurlements de joie. Les voisins s'étaient bien vite aperçus qu'un rayon de bonheur avait enfin pénétré sous ce toit de misère et partageaient cordialement la joie de la famille Chauvin. Ils vinrent en foule la félicité du bonheur inespéré qui venait de leur arriver. Conclusion.
nous remettrons à un autre jour le récit des aventures de Charles, qui occupèrent les jours qui suivirent son arrivée, et que le père d'Annie ne manqua point de corroborer et même de commenter, comme s'il y eût pris une part active. Charles, habitué au grand air des lacs et des forêts, étouffait dans l'étroit réduit qu'habitait sa famille. Il songea donc à s'établir à la campagne. Une occasion se présenta bientôt d'elle-même. Le nouveau propriétaire de la terre de Chauvin paya à son tour le tribut à la nature. La terre, mise en vente, fut achetée par Charles. Et cette famille, après 15 ans d'exil et de malheur, rentra enfin en possession du patrimoine de ses ancêtres. Quand le père d'Annie vit s'éloigner ses bons voisins, ce fut à son tour à verser des larmes. Charles en fut touché, et ayant appris que ce brave homme avait secouru sa famille dans sa détresse, il trouva place dans la ferme pour lui et pour sa vieille Marianne. Quelques-uns de nos lecteurs auraient peut-être désiré que nous eussions donné un dénouement tragique à notre histoire. Ils auraient aimé avoir nos acteurs disparaître violemment de la scène, les uns après les autres, et notre récit se terminer dans le genre terrible, comme un grand nombre de romans du jour. Mais nous les prions de remarquer que nous écrivons dans un pays où les mœurs en général sont pures et simples, et que l'esquisse que nous avons essayé d'en faire eût été invraisemblable et même souverainement ridicule s'il se fût terminé par des meurtres, des empoisonnements et des suicides. Laissons aux vieux pays que la civilisation a gâté leurs romans ensanglantés. Peignons l'enfant du sol tel qu'il est, religieux, honnête, paisible de mœurs et de caractère, jouissant de l'aisance et de la fortune sans orgueil et sans ostentation, supportant avec résignation et patience les plus grandes adversités, et quand il voit arriver sa dernière heure, n'ayant d'autre désir que de pouvoir mourir tranquillement sur le lit où s'est endormi son père, et d'avoir sa place près de lui au cimetière, avec une modeste croix de bois pour indiquer aux passants le lieu de son repos. Encore donc un coup de pinceau à un riant tableau de famille, et nous avons fini. Le père Chauvin, sa femme et Marguerite recouvrèrent bientôt, à l'air pur de la campagne, leur santé affaiblie par tant d'années de souffrance et de misère. Cette famille, réintégrée dans la terre paternelle, vit renaître dans son sein la joie, l'aisance et le bonheur, qui furent encore augmentés quelque temps après par l'heureux mariage de Chauvin avec la fille d'un cultivateur des environs. Marguerite ne tarda pas à suivre le même exemple. Elle trouva un parti avantageux et alla demeurer sur une terre voisine. Le père et la mère Chauvin font déjà sauter sur leurs genoux des petits-fils bien portants. Le père d'Annie se charge de les endormir en leur chantant d'une voix cassée quelques anciennes chansons de voyageurs. Nous aimons à visiter quelquefois cette brave famille et à entendre répéter souvent au père Chauvin que la plus grande folie que puisse faire un cultivateur, c'est de se donner à ses enfants, d'abandonner la culture de son champ et d'emprunter aux usuriers.